Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche. 1, 2, 3, 4. T'as lu l'humain, t'as lu l'imé. T'as lu le canard enchaîné. T'as lu les rapports de Kouchner, le nouveau livre de Sulitzer. T'as lu la lettre de Guy Brocken. T'as vu les bons à la télé, les monstres. Ils sont pas très contents, les bons. T'as vu la chaîne parlementaire parler des problèmes budgétaires pendant que les bons ils sont butés. B.B.D.A. Voulez-vous danser avec moi? Paraît qu'hier un Rockefeller a mordu le bras d'une grand-mère, il a fallu l'euthanasier.
Oh.
Alain Chabot, voulez-vous danser ce tambour? Paraît qu'hier un CM1 a mis le feu à son voisin, il a fallu l'euthanasier.
Pas vrai?
Oui. Rockefeller. La presse, ça scandale, c'est vraiment des scandales. La presse politique, c'est vraiment politique. La presse quotidienne, c'est vraiment quotidienne. Même le dimanche, la chaîne de l'info, c'est vraiment de l'info. La chaîne musicale, c'est vraiment musical. La chaîne du porno, c'est vraiment du porno. Même le dimanche. T'as lu Le Monde, Le Figaro?
Ouais. T'as lu L'Équipe, t'as lu Métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Ouais, ouais.
T'as vu La Junte à la télé?
La Junte.
Ils sont pas très sympas, la chante. T'as vu Borloo sur FCI avoir des idées de génie pendant que les bons y font buter.
P.P.D.A. Voulez-vous danser avec moi?
Paris qu'hier un Rockefeller a mordu le bras d'une grand-mère, il a fallu l'euthanasier.
Alain Chabot, voulez-vous danser ce tango?
Paris qu'hier un CM1 a mis le feu à son voisin, il a fallu l'euthanasier.
Rockefeller, c'est vous.
Hey. La presse, ça scandale, c'est vraiment du scandale. La presse politique, c'est vraiment politique. La presse quotidienne, c'est vraiment quotidienne.
Même le dimanche, la chaîne de l'info, c'est vraiment de l'info. La chaîne musicale, c'est vraiment musicale. La chaîne du porno, c'est vraiment du porno. Même le dimanche, la chaîne du bowling, c'est vraiment du bowling. La chaîne du poker, c'est vraiment du poker. La chaîne des achats, c'est vraiment des achats. Même le dimanche. La chaîne de Coé, c'est vraiment des gros cons. La chaîne des Bretons, c'est vraiment des Bretons. La chaîne des cadeaux, c'est vraiment des cadeaux. C'est le dimanche. La chaîne des chavales, c'est vraiment des chameaux. La chaîne des sourds rêvés, c'est vraiment des sourds. La chaîne des pigeons, c'est un plan américain. Même le dimanche. La chaîne Charles Villeneuve, c'est vraiment chambon session. La chaîne Sarkozy, c'est près tous les boutons. La chaîne Jacques Martin, c'est vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Même le dimanche. William Lémergie, il va péter un câble, il va se retrouver sur une chaîne du câble. Et Étienne Mougeot, il sort avec Patrice Robert. La chaîne de vélo, c'est vraiment pour les vélos. La chaîne du stéréo, c'est vraiment pour les oreilles. La chaîne de l'amitié, c'est vraiment pour les copains. La chaîne des prisons, c'est vraiment la d'un franc-comptard. Même le dimanche.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Lille, je mets le micro en place. Eh bien, avec nous le 43e numéro du journal La Brique qui vient juste de débouler dans la métropole lilloise. Donc, pour résumer le titre du numéro, c'est « Enfin un vrai réseau social ». Les moyens de communication n'ont jamais été si omniprésents. Et pourtant, question chaleur humaine, on se les pète sévère. Un lieu commun pas encore assez investi. Pour tous ceux qui sont attachés à l'humain, dans tout ce qu'il y a d'imprévisible, si l'avenir fait peur, le présent est déjà une lutte permanente. Ce monde lisse et calculé que nos ingénieurs préparent, nous le subissons presque partout. Avec tous ces outils qui visent à nous le cadrer, contrôler, aider et qui se multiplient plus vite dans leurs imaginaires malades que des pains dans les mains de Jésus. Détecteur obligatoire à la maison, passe indispensable dans les transports, identité numérique nécessaire. Si l'anormalité aujourd'hui est directement repérable, c'est que la norme se quadrille de mieux en mieux. Nique ta French Tech. Que crève le vieux monde et celui qu'il nous prépare avec, ça c'est l'édito du numéro 43. Alors autour des micros, Tonio.
Salut André, salut tout le monde.
Donc, c'est surtout tout le monde. Hein. Léa.
Bonjour.
Bonjour Léa. Et Philippe.
Salut, salut tout le monde.
Voilà, que crève le vieux monde et celui qu'il nous prépare avec. Donc, au niveau des titres, on parle de l'eau à Lille, on parle de là aussi une seule, la lutte paye, on parle des limbes au monde, des éclats dans la vitrine. On part de la cravatocratie. Il y a un entretien avec Alain Damasio, commençons par devenir épicurien. On parle d'architecture financière, on parle des vendeurs de roses. Le numéro précédent, il a bien marché sur le féminisme,
ouais,
commençons par là après tout.
Ouais, c'est vrai qu'on peut dire quelque chose, quelques mots là-dessus, c'est-à-dire que pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas trop, en fait on a un journal qui sort à peu près tous les deux mois depuis 8 ans maintenant, et en fait ces derniers temps on avait opté pour une formule assez particulière, c'est-à-dire qu'à chaque fois on choisissait un thème qu'on cherchait à approfondir autant que possible, et effectivement donc la dernière fois on avait décidé de s'attaquer un petit peu au féminisme, au pluriel, et donc de voir un peu ce que ça nous disait de l'époque présente et notamment sur la métropole. Donc effectivement c'est un numéro qui apparemment a pas trop mal marché, sans doute effectivement parce que ça fait écho au quotidien de beaucoup de gens, sauf que donc pour ce numéro présent on l'a joué un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a abandonné au moins provisoirement cette formule thématique pour s'orienter vers un truc un peu plus classique avec des papiers sur des sujets assez différents.
Un retour aux sources.
Voilà, un retour aux sources on peut dire, et puis donc avec comme vertèbre un peu à ce numéro un entretien donc avec Alain Damasio, donc un auteur de science-fiction qui commence à être un petit peu connu et qui nous intéressait pour son œuvre et puis pour le discours qu'il y avait, le discours politique qu'il y avait derrière.
Alors on commence par quel sujet? Allez, le premier, Laoucine ou un autre? On peut suivre l'ordre.
Oui, sur la Houssine, donc là on fait un retour, si je ne m'abuse, sur cette affaire, donc qui est la Houssine, c'est un jeune de Montigny-en-Gouëlle qui s'est fait tuer de 5 balles par la police en 2012, si je dis pas de bêtises, 2012. Et donc là il y a un retour un peu sur où on en est aujourd'hui, actuellement. Par ailleurs, hier, on était à Arras, au salon du livre d'Arras, et il y a eu un débat organisé par le collectif Angle Mort, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Permis de tuer. Bon, je sais pas s'il est référencé là dans l'article là.
Si.
Mais le débat était organisé donc par ce collectif-là, qui essaye de structurer, d'apporter une aide à tous les collectifs qui se créent après les crimes policiers. Donc les collectifs généralement Vérité et Justice, qui demandent à ce qu'on ait la vérité en fait sur ces crimes-là. Donc le débat était super bien. Il y avait aussi le frangin de Laoucine justement qui était là, qui est revenu un peu sur cette histoire-là avec un aspect un peu local. Et c'était vraiment, c'est vraiment un beau collectif. Le bouquin qu'ils ont sorti est vraiment très bien. Il y a une vraie réflexion autour de ce que c'est que ces crimes policiers, sur toutes les difficultés qu'ils rencontrent, mais juste pour avoir la vérité, quoi.
Juste pour avoir la vérité.
Juste pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Et donc là, il donnait pour exemple, il y a le procès de Ziad Ebouna, là, qui a eu lieu, là, il y a moins d'un mois, à Rennes. Et donc c'est 10 ans plus tard, quoi. Et c'est une lutte acharnée pour qu'il y ait un procès. Là, le procès, il a lieu, mais 10 ans après. Là, ils expliquaient qu'ils avaient assisté au procès, qu'ils entendent le troisième qui était rentré dans le transformateur électrique, que sa parole à lui, en fait, elle est complètement mise en cause par tous les procs, les juges, et qu'on se retrouve, c'était un procès des policiers, mais en fait, on se retrouve quasiment avec un procès du troisième jeune qui était là. Enfin, vraiment des trucs complètement hallucinants. Sur les flics qui sont pas sanctionnés du tout, mais qui même ont des médailles et puis passent les échelons supérieurs à l'intérieur de la hiérarchie.
Oui, comme aux États-Unis. On en parle beaucoup pour les États-Unis. On en parle très peu pour la France, c'est curieux.
Ils sont revenus un peu sur les trucs de Baltimore là en ce moment aussi, montrant que on est sur les mêmes. Alors ils montraient que l'ampleur est pas la même, quoi. Ils recensaient, donc je sais plus, ils ont dit sur 10 ans, ils recensaient 127 personnes qui ont été tuées par la police. En France.
En France, oui.
En France. Et ils montraient qu'à Baltimore, c'était 127 personnes, mais juste à Baltimore en 20 ans. Juste pour Baltimore.
Ouais.
Donc ils disent qu'on n'est effectivement pas sur le même registre.
Heureusement.
Mais qu'on retrouve plein de choses, quoi. Là-bas, c'est quasi exclusivement des Noirs. En France, c'est quasi exclusivement des jeunes d'origine maghrébine ou. On a fini le débat en disant voilà, il faut les soutenir ces collectifs là. Là ici on a dans le Nord, on a ce collectif qui s'est créé autour de la Houssine. Faut soutenir ces trucs là. Les militants, il faut qu'ils poussent à l'intérieur des orgas pour faire parler de ça et le mettre sur le devant. Et puis les gens en règle générale, il faut qu'ils s'intéressent à ces questions là quoi.
Voilà. Oui, là, dans votre article, on voit bien que, il y a une reconstitution qui est demandée. C'est souvent ce qui se fait automatiquement pour toute affaire judiciaire d'une certaine ampleur. Le juge d'instruction n'a pas envie de faire de reconstitution.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il a fini par le faire, mais au prix d'une lutte quasi quotidienne depuis des mois et des mois.
Et aussi parce qu'ils ont un avocat. Alors là, ce qu'ils montraient, c'est quand il y a des gros avocats qui sont derrière, ça peut faire avancer les choses. Eux, ils sont avec Dupond-Moretti. Mais bon, c'est des avocats qui coûtent la peau du cul. Toutes les familles ont pas donc là, ils expliquaient quand t'as l'aide juridictionnelle, que t'as pas de gros avocat derrière, bon, c'est complètement mort. L'avocat, il peut mettre toute la bonne volonté. L'affaire sera bouclée, quoi.
Et pour des raisons assez évidentes, hein, mais qui se vérifient sans doute dans le Nord, mais qui sont repérables dans plein d'endroits en France, c'est-à-dire qu'en fait les juges souvent connaissent les policiers parce qu'ils travaillent ensemble autour de toute une série d'affaires, et que mettre en cause la parole d'un policier, c'est quelque part aussi mettre en cause celle d'un collègue, et ce qui aboutit généralement au fait qu'effectivement les keufs sont très 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 rarement sanctionnés, y compris par la pseudo police des polices, quoi.
Et même au-delà de la sanction, en fait, dans le livre et autour de la Houssine, ça s'est passé également. C'est une espèce de pression sur les familles pour justement que ça se sache pas trop. D'où l'intérêt pour nous d'en parler et pour tout le monde de bien faire passer l'info, de parler de ce collectif. Parce que c'est aussi une façon de un peu camoufler les affaires et que personne ne se rende compte des problèmes, notamment procéduraux, que les familles rencontrent.
Voilà, et donc pour animer un peu le débat, donc il y avait une manifestation le 14 mars dernier avec plus de 300 personnes.
Ouais, ils étaient contents quand même, 350 ils disaient. Bon, après ils se sont vraiment super donnés, quoi. Je sais plus il y a combien d'impressions de tracts qui a été donné et tout. Donc en même temps ils disaient 350 c'est bien, et en même temps on aurait aimé aussi il y a eu un gros boulot de fait, quoi. C'est-à-dire par le collectif.
Voilà. Alors après, dans ce numéro 43, je sais pas, on parle un peu de l'eau, le débit de l'eau.
Ouais, alors c'est, enfin, on dire quelques mots rapidement sans trop dévoiler la teneur des papiers, mais effectivement, on est revenu sur ce qu'agite une bonne partie du milieu décisionnel et politique lillois depuis quelques temps, à savoir effectivement qui va s'occuper de la gestion, de la distribution de l'eau sur la métropole. Et alors effectivement, donc la décision est tombée il n'y a pas très très longtemps, à savoir que à nouveau donc la ville de Lille a décidé de déléguer, Lille Métropole qui a décidé de déléguer la distribution de la flotte à une multinationale qui s'appelle Veolia. Officiellement donc ce qui nous est vendu, c'est le fait que Veolia s'engage à baisser le tarif de la flotte. Pour le moment, en fait, ce qu'on constate surtout, et on est allé voir un petit peu du côté de l'île sud comment ça se passait, pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les gens surpayent leurs factures, qui mettent du temps à avoir de l'eau chaude, qui doivent faire couler le robinet parfois plusieurs minutes pour enfin avoir de l'eau chaude, etc., etc. Donc on revient un petit peu sur tout l'historique de ce bordel, et puis on essaye de faire un point sur... on en est aujourd'hui.
Et au-delà de ça, c'était la couverture de Liberté Hebdo aussi, je crois, de cette semaine. C'est de dire, la métropole, elle délègue de plus en plus au privé, en fait, les trucs de service public, que ce soit les transports, que ce soit la flotte, que ce soit... Et on reconduit, les contrats, ils sont passés, et sale taf, qui fait payer les contribuables, qui fait payer les habitants, et puis on reconduit, voilà, on continue comme ça. Donc, de toute façon, on s'y attendait, hein, Cacheux, qui était le vice-président en charge, en tout cas, de ce truc-là, l'avait dit de toute façon. Et puis, il y a eu un collectif qui s'est créé là-dessus. Il y a eu quand même plein de choses qui ont été faites. Mais de toute façon, pour Cacheux, c'était décidé. Hein, ça sera une reconduction.
Voilà. Et puis, je dirais que le contrat a changé de main. Avant, il était chez Suez. Maintenant, il est chez Veolia. Voilà. Mais on pourra remarquer que Lille Métropole avait engagé le cabinet d'avocats Cabine Neveu, qui a aussi, lui, comme client, depuis des années, Veolia. Donc on s'est bien arrangé en famille, hein, comme d'habitude dans la région.
Apparemment.
Hein, et finalement, ce qu'on reprochait à Suez, c'est le non-entretien des tuyauteries, hein, puisque il n'a remplacé que 0,73% des tuyaux sur 30 ans. En sachant qu'il avait prélevé quand même 156 millions d'euros pour le faire, et qu'il n'a rien. Enfin, bon, je pense que cet argent a dû servir en bourse, ou ailleurs, ou dans des placements juteux.
Non, mais des magouilles costauds, hein, quand même, avec la gestion de l'eau à Lille, c'est vraiment. On met le doigt sur quelque chose de, qui se calcule effectivement en millions, quoi.
En centaines de millions d'euros. Et par exemple, les pertes d'eau, c'est comme si on vidait la piscine Max Dormois, qui est quand même une piscine de dimension olympique. Hein, c'est, finalement, réfléchissez-y, allez-y.
On est sur des pertes olympiques. On peut le dire.
Voilà. Donc on la vide 11 fois par jour. C'est une quantité de flotte potable, chère.
Hein, c'est ça. Alors le pourcentage, je ne sais plus, mais je pense que c'était 20% de perte d'eau qui sort des tuyaux, quoi, et qui vient se, enfin, hallucinant, quoi.
Voilà. Alors une petite chanson.
Ouais.
Alors, voilà, toujours sur la presse. Allez, on va continuer dans le répertoire de la presse. Donc tout à l'heure, vous avez entendu, vous l'avez reconnu, la danse de l'info, la chanson du dimanche. Et maintenant, c'est le groupe Les Acrobates, le journaliste.
Je vais pas rester avec nous dans un instant le reste de l'actualité.
Yeah!
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lit se glissent des scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf
publicité.
On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur, coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, ouais,
donnez-moi de l'information.
Allez.
Donnez-moi de l'information.
Encore une fois.
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu,
des débats animés
pleins de manies et de tics.
Journaliste.
Et
deux, et trois. À l'heure,
on se contente à qui
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela. Et tous pour un et tous pourri, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Oui, moi j'ai tout entendu. Tout entendu, oui moi j'ai tout entendu.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information.
Mais d'abord les présents.
prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée, côté météo en tout cas.
Bah tiens, pendant cette pause musicale, on a reçu un petit coup de téléphone. Une certaine Martine demandait si elle devait démissionner, mais on n'a pas réussi à identifier de quelle Martine on parle, si c'est Aubry, Le Pen ou autre. Alors Le Pen...
Martine.
Alors on va parler... Dénin Beaumont, tiens, pendant qu'on y est.
Allons-y. Justement, Martine Le Pen.
On est dans le sujet. Bah, justement, on a décidé d'aller faire un tour vers Hénin Beaumont pour essayer de creuser un peu au-delà des grandes déclarations qui sont faites régulièrement dans la presse. On s'est bien sûr intéressé à l'histoire de la fameuse baisse de taxes d'habitation, annoncée dans les médias comme étant une révolution, preuve d'une bonne gestion de la mairie, etc. Déjà, première surprise, c'est qu'il s'agit d'une baisse sur le taux de la taxe. Ouais. Donc en fait, c'est 10% de 20%, ce qui au final fait pas beaucoup. Voilà, enfin, c'est entre autres choses les choses qu'on a découvertes. On a épluché aussi tout ce qui est conseil municipal, où même si pour l'instant ils sont vraiment sur un mode vitrine où ils veulent vraiment pas se faire épingler sur des choses qui pourraient les mettre en porte-à-faux par rapport à leur stratégie de dédiabolisation du Front National. On sent quand même des gros relents sécuritaires avec l'armement des policiers au tonfa ou des choses comme ça, enfin au bâton de matraque.
C'est le grand leitmotiv dans toutes les municipalités en ce moment, même à Villeneuve d'Ascq, je dis ça. Après, une arme, il faut savoir s'en servir.
Ah bah là, ils ont prévu la formation, caméras de surveillance à côté.
Et les caméras de surveillance, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, la grande manie, c'est de couper l'éclairage public. Mais oui, écoutez, il y a des caméras, mais elles filment du noir. comme quoi, dans les faits divers, on peut apprendre des choses intéressantes. Allez, je te laisse parler.
Ah oui, non, mais voilà, c'était... Donc, c'est pas un article classique, parce qu'on a plutôt fait des petits blocs focales, à chaque fois, sur des focales sur une thématique. Donc, il y a à la fois tout ce qui est la stratégie bon élève de Steve Briouat avec les taxes, etc. Il y a leur logique un peu sécuritaire. Et il y a aussi tout un grand pan sur l'histoire, en fait, d'Hénin Beaumont et comment... quelques éléments qui ont expliqué comment ça se fait qu'aujourd'hui, Steve Briouat est aussi bien installé et au sein de sa municipalité. Donc ça, je vais peut-être...
Ouais, pour le coup, ce qui est assez rigolo, donc effectivement, enfin, l'idée, c'était d'aller voir ce qui se cachait derrière la vitrine, parce que même la presse locale et la presse nationale également relaient un peu cette version-là. Hein. Steve Briouat a été élu l'année dernière, élu local de l'année par un parterre de journalistes un peu révérencieux. Donc l'idée, c'était d'aller contester cette version un peu officielle et de comprendre pourquoi on en était là. Effectivement, alors... Ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est un peu regrettable et désolant, mais c'est de voir effectivement tout ce que le Front National doit au Parti Socialiste sur cette ville-là, où on re-raconte assez rapidement, en s'appuyant notamment sur le travail d'une autre journaliste qui s'appelle Haïdé Sabéran. Mais on revient un peu sur l'histoire de cette ville-là et sur toutes les embrouilles plus ou moins mafieuses qu'on peut associer au bilan d'Allongeville, hein, qui est un des anciens maires d'Hénin Beaumont, et qui s'était illustré par une gestion de ses finances publiques assez particulière. Donc de revenir un peu sur la manière dont le Parti Socialiste et un certain nombre de ses représentants ont constitué un terreau favorable à l'émergence du Front National. Et il y a un deuxième élément qui les rapproche, c'est de voir un peu comment le Front National évolue depuis qu'il a pris la tête de cette ville. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'en fait il a les mêmes pratiques politiques que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le Front National pique tout dans le répertoire du Parti Socialiste, y compris cette capacité à empiler les mandats, à cumuler ces mandats de manière assez époustouflante, de voir comment effectivement ils reprennent toute une série de tactiques pour verrouiller un peu toutes les positions de pouvoir. Et en ce sens, ce qui est assez frappant, c'est qu'ils se distinguent du Parti Socialiste en piochant assez largement dans son répertoire. Alors du coup, nous, on a aussi cherché un petit peu à interroger la contestation du Front National, voir un peu qui disait quoi, qui faisait quoi à Hénin Beaumont. Et là, pour le coup, c'est aussi un petit peu désolant. C'est-à-dire que ce qui frappe au prime abord, c'est le caractère très éclaté de cette contestation, qui se donne à voir pour l'essentiel via des blogs individuels, hein, de personnes qui prennent la parole à titre individuel et qui enregistrent un peu tous les conflits qui ont pu opposer les différentes fractions qui s'opposaient donc au Front National et qui n'ont pas été complètement soldées, où voilà, il y a toujours des magouilles entre le PC et le PS. Il y a toujours des magouilles entre des gens qui étaient avec l'ancien maire mais qui se demandent s'ils pourraient pas incarner un petit peu le renouveau d'ici quelques années, qui du coup se la joue un peu en soliste sur ce mode là et d'autant, enfin c'est d'autant plus désolant comme panorama, alors même s'il y en a qui se bougent très fort sur toute une série d'actions, etc., mais c'est d'autant plus désolant qu'en fait quand on regarde l'opposition politique au Front National à Hénin-Beaumont, et notamment ce que l'opposition vote en conseil municipal à Hénin-Beaumont, ben c'est assez effarant. C'est-à-dire que, par exemple, et ça on ne dit pas assez, Léa avait raison d'insister là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire que le Front National est bien sécuritaire et ça se voit à Hénin-Beaumont, et ben quand il s'agit de le voter en conseil municipal, ou en tout cas quand il s'agit de s'y opposer, et ben même les Verts décident au mieux de s'abstenir sur toute une série de mesures, comme par exemple le plan qui engage la mairie sur la voie de la vidéosurveillance. Donc voilà, on a un laboratoire national du Front National, un laboratoire sécuritaire, et tout ce que les Verts trouvent à faire quand il s'agit d'ouvrir un peu sa gueule, c'est de ne pas se positionner contre la politique sécuritaire du Front National dans son laboratoire. Et ça, c'est quand même complètement effarant. Ce qui s'éclaire un petit peu mieux quand on regarde un peu les épisodes passés, à savoir que le Parti communiste comme le Parti socialiste, à l'époque, s'étaient déjà engagés lorsqu'ils étaient dans la majorité, sur toute une série de plans en faveur de la vidéosurveillance, en tout cas toute une série de motions, etc., etc. Voilà, ce qui donne un peu à voir l'état de la controverse idéologique à Hénin-Beaumont, et ce qui est un peu décourageant sans doute pour une partie des militants qui sont engagés quotidiennement sur ce front-là.
Donc la vidéo de surveillance, c'est quand même 45 000 euros minimum par caméra, plus les contrats de maintenance qui ne doivent pas être donnés.
Voilà, dans un contexte budgétaire un peu tendu, parce que...
Donc on supprime des postes de policiers après, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, ce qui est...
Là, pour le coup, ils en engagent. Donc,
oui, mais
pas
bon,
de problème.
Ça, ils supprimeront d'autres postes, hein, le plus souvent. Ouais. Donc, donc 1er mai, beaucoup de journalistes parlent de la fête du Front National. Hein, fête du travailleur, fête du travail, rien, donc dans la presse officielle.
C'est Jeanne d'Arc, je sais pas quoi.
Oui. Oui,
c'est pas les travailleurs.
C'est un rappel qui est tombé assez régulièrement ces derniers temps et qui est assez salutaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé entre 1886, année de la création de cette tradition du 1er mai, on est passé donc de la fête des travailleurs à la fête du travail. Et ça, on le doit à qui ? On le doit au maréchal Pétain en 41. Et donc, en fait, le problème, c'est que plus personne ne revient trop sur les enjeux de cette dénomination du 1er mai. Alors qu'effectivement, encenser le travail et favoriser la solidarité des travailleurs, c'est pas complètement la même chose, surtout dans le contexte actuel. Et le Front National a un peu joué de cette ambiguïté-là hier, comme d'habitude.
Hein, et après, on a des articles, Madame Marine Le Pen, ou Martine Le Pen, pardon, excusez-moi, elle aime bien son chat. Ça veut dire, tout est fait pour nous la vendre comme future présidente de la République, pas de problème.
De toute façon, c'est vraiment même Hénin-Beaumont, nous, en y allant, et en allant notamment au meeting, parce qu'on est tombé au moment des élections, on voit vraiment que c'est le laboratoire qui... la première marche qui, pour leur objectif, qui est 2017. Et c'est totalement assumé. Et ce laboratoire-là, s'il est aussi surveillé, et s'il y a aussi peu de dépassements, c'est le bon élève des mairies Front National en France. On voit que, par exemple, à Villers-Cotterêts, qui est en Picardie, oui, c'est ça, y a déjà des problèmes d'adjoints qui se font saisir en justice pour insultes racistes ou autres, alors qu'Hénin-Beaumont, c'est vraiment ils sont tellement surveillés ils se tiennent totalement à carreau, et de toute façon à chaque discours ils rappellent que la prochaine échéance c'est 2017, enfin les régionales avant et après 2017,
et
la voie est ouverte là, enfin
Ils ont une autre tactique de gouvernement qui est un peu flippante, c'est-à-dire que l'adjoint de Steve Rio à Hénin Beaumont, c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Bild, enfin le principal adjoint, et donc il y a une formation de juriste et de communication, ce qui fait qu'en fait il verrouille tout. Et dès qu'il y a un opposant qui a le malheur d'avoir un mot plus haut que l'autre, eh ben, il se fait rabrouer en conseil municipal et il se fait menacer de poursuite. Et donc il y a déjà toute une série d'opposants au Front National à Hénin Beaumont qui ont un procès au cul pour avoir dit telle ou telle chose. Et par exemple, un exemple qu'on reprenait rapidement dans le papier, mais c'est que Metro News, donc le très inoffensif Metro News, une fois avait gentiment moqué la propension de Steve Briot à s'étaler dans son propre journal municipal, où il y a des photos de lui à peu près partout. Et en fait, 4 heures après l'édition de ce petit papier pas bien méchant sur le site, ils ont été contraints de l'amender et de publier les éléments d'un droit de réponse de Bruno Bild. Donc il faut voir à quel point voilà, ils sont au taquet sur tout ce qui peut se dire, sur ce qu'ils pratiquent, donc avec l'idée, encore une fois, donc de respectabiliser un peu leur bonne gestion et se présenter dans les meilleures conditions en 2017.
On n'a pas eu de nouvelles de ce monsieur là, pour l'instant, non ?
Non, pour l'instant, nous, on n'a pas encore été trop inquiétés, donc on brûle un cierge tous les jours.
Un grand marché transatlantique pour du et du cancer. Depuis j'ai plié lequel sous le PS exactement, par l'UMP, pas le poutou, sous le PS exactement, juste pour des sous. Dans quel district c'était tout en bord de la mer. Depuis j'ai oublié lequel sous le PS exactement, pour le marché mais pas pour nous, sous le PS exactement, juste pour des sous. Était-ce là, nous, belle France-Afrique, vers le pop-corn, le billet vert, né dans une tête de chou de Bruxelles, sous le PS exactement, pour le marché mais pas pour nous, sous le PS exactement, juste pour des sous. C'est sûrement un rêve érotique pour faire un marché grand ouvert. Et pourtant si c'était réel, vers le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, vers le soleil, vers juste en dessous.
L'âge. Radio Campus Lille, désolé, j'ai pas de chanson sur le FN, mais j'en ai plus.
Non, mais celle-là, elle est marrante, hein. J'ai aimé.
Alors, je ne sais pas, c'est Sous le soleil exactement, une parodie, elle est chantée par Serge Gain, mais je pense que ce ne doit pas être son vrai nom. Gain, G-A-I-N-S, hein, comme Gainsbourg.
Ouais.
Ben, vous avez invité Alain Damasio dans le numéro 43 de la brique, là.
Yop. Bon, en fait, ça faisait quelques mois que ces bouquins circulaient pas mal entre nous, on discutait avec d'autres copains, etc. Puis on s'était dit que ça serait peut-être l'occasion d'aller fouiller d'un peu plus près, sachant qu'on avait des copains qui par ailleurs le connaissent un tout petit peu et qui maîtrisent très très bien son œuvre, et donc à qui on a demandé de voilà, se prêter à ce jeu de l'entretien avec Alain Damasio, donc qui est un auteur de science-fiction et qui excelle dans l'art de la dystopie, c'est-à-dire cette manière de décrire des utopies négatives, c'est-à-dire de se projeter projeter dans le futur, de tirer les fils de ce qui joue dans le présent, de voir tout ce que ça peut véhiculer de relents nocifs et négatifs pour l'humanité, quoi. Donc ces bouquins sont assez excellents, et sachant que derrière c'est quelqu'un aussi qui a un discours en fait sur ce qu'il écrit, qu'il écrit pas n'importe, enfin pas pour n'importe quelle raison, qui a un intérêt à décrire toutes ces choses là et qui revient sur 4 pages sur tous les éléments qui lui paraissent un peu caractériser notre époque, et en particulier donc ce que lui appelle l'avènement d'un capitalisme mouchard, où en fait chacun d'entre nous participe de plus ou moins bon gré au flicage. Et lui, il a tout un paradigme autour de la trace, c'est-à-dire toutes les traces qu'on laisse en permanence de manière plus ou moins volontaire, et qui permet à l'État ou aux firmes transnationales de pister chacun de nos comportements. Et donc lui, il a toute une théorie un peu autour de ça, et notamment sur ce qui serait un peu les trois âges du capitalisme technique, à savoir donc l'âge 1.0 qui était le stade un peu initial, qui s'est donc très vite tourné, qui s'est un peu trituré dans une forme ensuite donc moucharde, où chacun laisse des traces et permet à l'autre donc de veiller à nos comportements. Et puis lui, il parle déjà de l'avènement d'un troisième moment, celui donc de l'internet des objets, hein, dont on entend parler régulièrement, mais où en fait on demande aux machines d'être intelligente à notre place. Que ce soit un frigo qui nous indiquera bientôt que notre lait est périmé, comme si nous-mêmes n'étions pas capables de renifler ce que c'était que du lait frais ou du lait périmé. Donc il revient un petit peu autour de ça, et puis il plaide, disons, pour un retour à plus d'humanité, à plus de liens, où il explique, en fait lui, c'est un peu le sens qu'on a voulu donner à ce numéro-là, autour du réseau social. Il explique que c'est un terme qui a été préempté par Google et ses avatars, et que le réseau social, le vrai réseau social, c'est sans doute celui qui parvient à échapper au numérique, qui parvient à échapper au virtuel, à l'injonction permanente à se connecter sur des choses plus ou moins futiles. Et lui, il nous rappelle que le réseau social, il se joue au bistrot, qu'il se joue dans les associations, qu'il se joue dans les rencontres, dans les amitiés, dans la nature, etc. etc. Et voilà, c'est des choses qui formulent très très bien et qui nous ont fait du bien, parce qu'il met des mots, alors parfois un petit peu techniques, mais...
J'allais dire.
Mais il met des mots assez forts sur ce que nous on peut traverser.
Ouais, c'est qu'il y a un style, il y a un style qui peut paraître difficile à certains moments, et qui aussi peut être aussi assez jouissif dans la façon de d'écrire les choses.
Une petite phrase, il n'est pas trop difficile cet article. Hein. Donc la société des traces est une façon de retenir notre mémoire contre nous. Une mémoire dont nous n'avons que faire car elle est faite de nos déchets d'actes. Parce que le plus souvent, j'aime beaucoup cette traite, et c'est ça qu'ils archivent. Ils numérotent les grains de sable de la mer. Ça, c'est un truc délirant. À ce sujet, il reste plus que IBM a revendu une partie de sa branche de fabrication de microprocesseurs, et il ne garde plus que la fabrication des microprocesseurs pour très grosses machines, big data, qui permettent d'analyser justement des pyramides de données de toutes les petites informations qu'on réussit à capter sur nous.
Et puis, on est en plein dedans avec le projet de loi sécuritaire qui est en discussion récemment au Parlement, où concrètement ils sont donc à la fois en train d'officialiser toute une série de pratiques illégales jusqu'à présent, en vigueur au sein des services de renseignement, et qui par ailleurs en fait, autorise la mise en place de toute une série de logiciels censés un peu détecter par avance un peu la Minority Report qui pourra se rendre coupable d'actes de terrorisme, sachant que pour ce faire, en fait, ils sont obligés de constituer une masse de données considérable avec à peu près tout le monde pour pouvoir comparer les profils qu'on juge dangereux avec les profils qu'on juge relativement inoffensifs. Mais donc du coup, pour pouvoir cibler le danger, on a besoin de tout connaître. Et donc ça veut dire que les parfaits innocents sont probablement également intégrés à cette masse infinie
dans la
machine, données personnelles, quoi.
Voilà, alors on a besoin de tout connaître. Ils ont besoin de tout connaître. Exemple, la carte de transport de la métropole, là, avec... comment ça s'appelle déjà ?
Bypass.
Hein, un bypass. Moi, je voudrais savoir combien de voyages il reste sur ma carte. C'est impossible. Si vous la passez devant un appareil, elle décompte un trajet. Merci. Ah non, mais même au bureau où vous pouvez, où vous rachetez des voyages, ils peuvent pas vous le dire.
Je ne sais pas.
Ouais, je me suis renseigné avec la mienne.
Ça vous en dit pas trop parce qu'a priori on,
oui,
on prépare gentiment un petit numéro thématique sur la question des transports. On reviendra un peu sur toutes les techniques de contrôle et les nouveaux plans sécuritaires qui sont en gestation du côté de l'île métropole.
Voilà. Après, il y a un sujet. Donc, on parlait du monde 3.0. Mais finalement, quand on voit ce que peuvent faire les robots ou ce que peuvent faire les ordinateurs, bon, remplacer le travail humain, bon, on y est presque. Hein, la preuve, le chômage partout. Donc, ils auront intérêt à essayer de maintenir toute cette population de chômeurs. Hein, la classe moyenne est en train de dégager. Et là, j'ai lu un article ce matin dans le Figaro.
Saine lecture.
Saine lecture. Bah oui, mais il faut s'informer. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Mmh. Et bah, le travail des médecins remplacé par des machines, on y est presque. Hein. Alors, encore une partie de la classe moyenne qui va dégager. Bah une petite chanson, Darwin avait raison, par Féloche.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Accroché à la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. De tête. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain, Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Féloche a pris le zar. Darwin avait raison.
Franche Info, il est 7h.
Voilà, toujours la presse. Vous écoutez Radio Campus Lille, la brique numéro 43 sur l'antenne. Vous venez d'entendre donc Darwin avait raison.
Nous ne sommes pas sur France Info.
Féloche. Nous ne sommes pas sur France Facho. Effectivement.
Carrément.
Il fait beau, les vendeurs de fleurs vont fleurir dans l'île. Il y a deux pages sur ce sujet. Finalement, on en parle. Jamais vu un article sur les vendeurs
toujours.
De fleurs. Oui, on les croise toujours.
Je crois qu'on les connaît tous plus ou moins au moins de vue. Et c'est vrai qu'on a essayé d'en savoir un peu plus en allant les rencontrer. Donc on est allé notamment rencontrer les... Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, il y avait eu un scandale qui était remonté au niveau national. De violences policières envers ces vendeurs de roses. Scandale. Et donc on a un peu comme là aussi, essayé d'aller... en savoir plus sur eux et aussi où ils en ont été et deux ou trois ans après comment ça se passait. Déjà, il faut savoir qu'on dit souvent à tort que ce sont des Pakistanais. En fait, il s'agit de Bangladi, donc venant du Bangladesh. Ce qui change pas mal de choses étant donné les accords entre la France et le Bangladesh. Pardon. Parce qu'en fait, n'ayant pas d'accord entre ces deux pays-là, les Bengalis qui arrivent sur l'île n'ont pas le droit de travailler et n'ont pas le droit au séjour de travail, au titre de séjour pour pouvoir travailler. Et ils nous ont expliqué à quel point vendre des roses, c'était pour eux le seul moyen d'être ni dans la légalité, parce qu'ils ne sont pas déclarés, ni dans l'illégalité, parce qu'ils ne sont pas en train de faire des trafics de drogue ou autre chose, en fait. Et les possibilités pour eux de survivre sont assez minimes, parce qu'ils ne veulent absolument pas rentrer dans l'illégalité, ce qu'on peut leur tout à l'heure sous l'honneur. Ensuite, ça a été l'occasion aussi d'en découvrir un peu plus sur ce pays-là, qui a été supprimé de la liste des pays sûrs par Claude Guéant, puis réintroduit au bout d'un an, parce que c'est quand même violence policière, meurtre, c'est quand même un pays dont on sait peu et pas pour des raisons de communication, surtout pour des raisons politiques. Et je vous laisserai découvrir un peu leur histoire, jonchée de parcours assez durs et que malheureusement on retrouve de plus en plus.
Parce qu'il y a aussi il y a aussi beaucoup de fantasmes aussi qui se font autour de ça. Genre c'est des mafias derrière.
Ils sont pris dans les trafics.
Ils sont pris dans les trucs et tout. Je ne me rappelle plus s'il y a un passage sur comment ils se fournissent
au marché d'Oisem. Ils les récupèrent. Mais les sommes qu'ils récupèrent sont vraiment minimes. Ils ont à peine de quoi survivre. Concrètement, c'est pas du tout. Mafieux, c'est souvent des jeunes gens masculins seuls parce qu'ils n'ont pas pu venir avec leur famille car le passage coûtait trop cher. Et c'est des gens qui... Il y a notamment... les lois, en fait, sont de plus en plus dures. Et il y a notamment un qui est là depuis 17 ans, qui est marié avec une Française, qui a un enfant et qui n'arrive toujours pas à avoir de titre de séjour au bout de 17 ans. Ce qui prouve que la collaboration entre les pays et la clémence de la France est de moins en moins... en leur faveur. Et le rapport aussi avec l'article de Laocin, c'est qu'on voit que par rapport au procès qu'il y a eu, qui n'a toujours pas eu justement, les violences ont été reconnues, c'est en plus avec la médiatisation qui a eu lieu, il y a eu des grandes annonces comme quoi ça n'allait pas rester impuni, etc. Et sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de procès de ces deux policiers qui sont quand même inculpés de violences aggravées, etc.
Oui, à Baltimore, aux États-Unis, il y a eu de sacrées manifestations et les manifestants sont contents parce que les policiers vont être officiellement jugés.
Ouais, on retrouve
exactement la même situation, mais non, on nous montre les États-Unis, comme d'habitude, bien sûr, c'est toujours mieux là-bas. Donc, vendeur de roses, bouquet de ton face, les derniers seront les derniers. Après, je ne sais pas moi, on peut parler des patrons de presse, après tout.
Par exemple.
Bon, la Brique n'a pas un tirage phénoménal, mais vous avez quand même pas mal de milliers d'exemplaires.
N'a pas de patron, surtout.
Vous n'avez pas de patron, oui.
Comme ça, on n'est pas.
Mais il y en a d'autres qui en ont.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a enquêté sur notre pur négatif, je crois. Donc, c'est-à-dire la Gazette du Nord-Pas-de-Calais, qui est un journal qui dira sans doute pas grand monde, enfin qui dira sans doute pas grand chose à grand monde, pardon, mais qui est en fait un hebdomadaire qui sort sur la région.
Dispo en kiosque.
Disponible en kiosque. Je vous recommande pas forcément son achat, mais il faut simplement mieux comprendre comment ce truc fonctionne. C'est-à-dire que officiellement, c'est un peu le journal économique de la région. Effectivement, c'est un titre qui est très prisé au sein du milieu patronal de la métropole. Les décideurs sont très friands de ce qui peut s'y écrire. Alors simplement, c'est un truc qui repose sur un business model assez particulier. C'est-à-dire que généralement, on entend tous les jours cette idée comme quoi la presse ne rapporte plus d'argent, que la presse se casse la gueule, que c'est le tout numérique, etc. etc. Or, en fait, cette sombre publication qui s'appelle la Gazette du Nord-Pas-de-Calais produit un chiffre d'affaires annuel qui se chiffre en millions d'euros. Alors d'où vient ce petit miracle? Là, on est quand même sur un journal peu intéressant, donc lu essentiellement dans un petit milieu. Voilà, qu'on peut, on y reviendra un petit peu sur la manière de travailler ce journal, mais qui donc permet à son patron de générer un chiffre d'affaires complètement hallucinant. En fait, ce truc qui repose sur un truc très simple, mais que peu de gens connaissent sans doute, c'est le business des annonces légales. Alors, c'est quoi le business des annonces légales? C'est pas très compliqué. C'est l'idée que voilà, toute une série de boîtes, pour des raisons juridiques, sont astreintes à la publication d'informations légales qui doivent donc paraître dans toute une série de journaux. Alors, ce marché-là, parce que c'est un marché, fait l'objet donc d'une concurrence annuelle. Enfin, tous les ans, en préfecture, il y a une réunion qui met aux prises les différents prétendants à la publication de ces informations. Et donc, la Gazette du Nord-Pas-de-Calais, depuis très longtemps, remporte souvent une bonne partie de l'appel d'offres et donc se fait grassement rémunérer. Hein. C'est des pages d'annonces légales que, encore une fois, personne ne lit. Ça génère plusieurs milliers d'euros. Hein. Pour une page, c'est plusieurs milliers d'euros chaque semaine.
Enfin, sauf les intéressés, les lisent. Les sociétés financières et autres les lisent.
Oui, bon, après, quand il y a Jean-Michel qui a changé de siège social en passant du trottoir A au trottoir B, je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui titille très fort la conscience des ménages. Alors simplement, ce qui est assez rigolo, c'est de voir en fait comment ce truc-là, il a un peu des conséquences sur le travail des journalistes, parce qu'il y a quand même des journalistes à l'intérieur. C'est-à-dire que, grosso modo, le patron est tellement soucieux d'être bénéficiaire sur cette affaire, qui n'est pas la seule dans laquelle il est très impliqué, hein, le patron qu'on peut citer au passage, il s'appelle Arnaud Méplon, qu'en fait, il a raboté tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin du journalisme à l'intérieur du journal. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, il a viré pas mal de journalistes, il a embauché pas mal de gens dont le domaine professionnel relève davantage de la com, ou de la gestion de ressources humaines. Et par ailleurs, donc, il a demandé plus ou moins expressément, plus ou moins explicitement, à ce que le travail des journalistes ne soit jamais très nocif pour les boîtes dont il était question. C'est-à-dire que il y a très peu d'articles, voire aucun, et quand c'en est un, le journaliste ou le pigiste qui parvient à faire passer ça, il s'en remet pas pendant 3 mois, mais il y a aucun article qui traite de l'actualité sociale, ou en tout cas qui parle de l'entreprise sous son volet social, avec des plans de licenciement, etc., etc. Et c'est surtout, voilà, des papiers qui sont là pour ménager les susceptibilités des décideurs de la région. Donc voilà, on est quand même sur un journal peu intéressant, mais intéressant en ce sens qu'il dit des choses sur la manière dont fonctionnent les élites de la région, hein, la question de l'entre-soi et la question du relais médiatique de cet entre-soi. Et pour ça, en fait, voilà la petite focale qu'on a pointée sur ce directeur de publication, elle est intéressante parce qu'elle est révélatrice de ce climat plus général où tout le monde se connaît, où tout le monde se chatouille, mais personne ne s'embête et qui permet donc à chacun de tirer son épingle du jeu et Arnaud Méplon d'être aujourd'hui millionnaire.
Oui, et en plus de ça, c'est, comment dire, cette revue, on se demande à quoi elle sert, enfin, à part enrichir son patron, c'est intéressant vu que aucun autre journal ne peut bénéficier donc de ces annonces légales. Enfin, alors, je sais que ça paraît dans plusieurs journaux,
ouais,
mais
aucun autre.
Ben voilà, il y a une place occupée. Voilà, c'est une place qui est occupée. C'est pas la brique qui rend les annonces légales.
Non, a priori, on va pas
voilà.
Se battre,
c'est ce que je veux dire.
Alors après, non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est dans la mesure où c'est un gros business, en fait, il y a un peu d'embrouille. C'est-à-dire que c'est la Voix du Nord est aussi positionnée sur ce créneau-là. Et donc des fois, en fait, la préfecture va bien vérifier. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est un peu technique, mais qui est important, c'est... Et c'est pour ça que la BRIC, d'ailleurs, ne pourra pas candidater dans l'immédiat à ce business-là. Mais c'est que pour pouvoir publier ces annonces légales, il faut se prévaloir de 6000 abonnés. Mais donc, les 6000 abonnés en question, disons qu'on peut les présenter via toute une série de documents qu'on peut plus ou moins trafiquer. Et donc, grosso modo, alors sans être trop affirmatif sur ce plan-là qu'il faudrait vérifier, mais il semblerait qu'il y a quelques années, on ait reproché quand même assez explicitement à la Gazette des Communes d'avoir gonflé artificiellement le chiffre de ses abonnés, de manière à pouvoir remporter la mise l'année suivante et donc continuer à renflouer les poches de son patron.
Oui, enfin, moi, je reçois parfois des offres d'abonnement gratuits, et ils précisent même dans le courrier qu'un son, qu'un sondage va être effectué dans la région concernant comment dire les habitudes des lecteurs de presse quoi. Enfin, ils t'envoient un abonnement pour que tu puisses dire ah mais oui je lis un tel. C'est,
ah, bah,
c'est un peu ça, c'est quasiment ça dans le courrier. Alors une petite rubrique qui revient, qui n'était pas le numéro thématique, les petites brèves. Bah, je sais pas, il y a de l'info. Hein.
Bah oui, ça fait du bien de changer le format, de retrouver ce format un peu court, un peu bref, à côté de d'autres papiers qui peuvent être un peu plus s'étaler.
Puis il y a des informations. Je sais pas, moi, la montée à l'étage de l'extrême droite à Lille. On les avait habitués aux caves, mais voici qu'ils montent aux étages. Si le FN s'est installé juste au-dessus du 98 rue Solferino, génération identitaire squatte désormais le centre-ville. Donc après s'être fait jarter à grand bruit de la cave du Berkeley, pour quelques histoires de salut nazi, Aurélien Verassel et ses amis investissent à présent le premier étage du café Le Riours. Voilà, ben, on a des... ça c'est de l'information.
Mmh. Hein, autre petite brève sur l'ambiance survoltée au Parti Socialiste le soir des élections, hein, ça.
Oui, par exemple, oui, oui, au moins on sait ce qui s'y passe. Hein,
où on apprend que M. Pargnaud et M.
Caner
se sont foutus sur la gueule au sens propre.
Voilà. En gros, c'est...
On aurait bien aimé voir ça.
Ça, c'était assez rigolo. Bon, ça, c'était un tout petit peu relayé aussi, je pense, dans la Voix du Nord, ce truc-là. Mais c'est le Conseil fédéral donc, qui a suivi la débâcle donc, aux dernières élections. Et où, en fait, effectivement, les deux loustiques, donc le premier, c'est le patron de la Fédération Socialiste du Nord. Le deuxième, donc, c'est un actuel ministre, mais qui a fait ses armes dans la région. Donc les deux se sont reprochés, enfin se sont tenus chacun responsable de la déroute, et à tel point que bon voilà,
ils sont ridicules.
Ça s'est pas très bien terminé, ça s'est menacé publiquement devant témoins, ça s'est un peu écharpé même physiquement, et voilà, nous on s'est bien marré en apprenant cette petite nouvelle en se disant que voilà.
Non mais le Parti Socialiste est vraiment ridicule.
Voilà, on est un peu. Il y a quelques années en fait, dans les années 80, on parlait à propos de la droite la plus bête du monde, hein, parce que c'était une droite qui réfléchissait très peu. Je pense qu'aujourd'hui, le qualificatif va assez bien à notre petit parti socialiste local qui incarne assez bien la gauche la plus bête du monde.
En gardant l'expression comme ça, hein. Le PS, la droite la plus bête du monde.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire que le PS il soit trop à gauche quand même. Faut pas. Là, on va te voir.
Oh non.
Les auditeurs. Il nous reste royalement 1 minute 48. Donc, on vous a pas parlé de la cravatocratie, une BD très intéressante.
Ouais.
Hein, la CAUE.
Le CAUE.
Le CAUE, mes excuses.
Dossier.
Pareil, on est sur une histoire de patron pas bien claire avec ses employés.
Sur une association financée notamment par la taxe départementale que nous payons plus ou moins tous.
De toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une seule personne qui finance tout le bazar, c'est nous.
A priori.
Hein, ne serait-ce que par la TVA, qui fait déjà un joli prélèvement sur les revenus de chacun.
Bon, on n'a pas notre six national pour finir l'émission et vous envoyez du acheter la brique, achetez-en trois, offrez-la à la grand-mère, offrez-la au grand-père, offrez-la aux petites sœurs. Allez voir le nouveau site internet.
Ouais. Ça faut quand même le dire. Donc effectivement, pour
ceux, il y a un nouveau site. Effectivement.
Ceux qui nous connaîtraient pas, donc on a un site internet en plus du journal qui est quand même le format qu'on privilégie. Donc labrique.net tout simplement. Il est tout frais, il est tout neuf. On a refait un petit peu l'armature qui commençait un peu être un peu crapouille. Et donc là voilà, c'est tout beau, tout propre. On a une adresse mail pour les personnes qui nous liraient, qui auraient des remarques ou des retours ou des propositions de coups de main à nous faire. Donc c'est journal.labrique@gmail.com. Et puis on peut d'ores et déjà annoncer aussi la couleur du prochain numéro. Il y aura pas mal d'articles assez différents, mais notamment deux focales. L'une sur le mai 68 à Lille, quelque chose dont personne ou presque ne parle et sur lequel nous reviendrons en détail. Et puis une petite enquête sur la bière. Alors cette fois-ci pas sous l'angle un peu folklorique pour dire combien nous on est rigolo dans le Nord parce qu'on se piche la gueule comme des fous, mais plutôt pour aller voir l'envers du décor, c'est-à-dire se cacher derrière cette pratique culturelle et ô combien noble, hein, mais savoir le fait qu'effectivement on est sur une industrie avec des grands méchants.
Salut, c'est HK, le saltimbanque. Il est là, il est beau, il est tout frais, il est nouveau. Il vient de sortir le nouvel album d'HK et les saltimbanques, Rallumeur d'étoiles. C'est en exclusivité ou presque, ça dépend des jours, sur Radio Campus.